Bienvenue sur les ondes de Soleil FM pour ce nouveau plateau radiophonique. Les femmes derrière la caméra, la nature à l'écran, je suis minoritaire sur ce plateau et ça me va très très bien. Par ordre alors de mes micros, on va faire ça si vous voulez bien mesdames. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Sylvie Randonnex, donc, qui si je ne m'abuse est productrice, c'est ça ?
C'est ça, oui,
bonjour. La société de production s'appelle ?
Nord-Ouest Documentaire.
Bon, bienvenue sur les ondes de Soleil FM. Nous avons également avec nous la réalisatrice Jacqueline Farmer, bonjour.
C'est ça, bonjour, avec un petit accent qui vient de l'Écosse, voilà.
Et vous nous faites voyager en plus. Vous agissez, on va quand même le préciser, pour une fondation, c'est ça, la Fondation 7 ?
C'est ça, la Fondation 7 qui est basée à Arles et qui a amené toute une programmation dont on va parler à la suite de l'émission, j'espère.
J'ai
et qui aura lieu demain.
Voilà, j'ai des informations, on va en parler. À vos côtés, donc, je ne me trompe pas, je prends le micro suivant. Nous avons Rachel Cobb qui est avec nous, photographe de son état. Bonjour.
Bonjour, Rachel Cobb des États-Unis.
Oui, United States.
Oui.
Bienvenue.
Merci beaucoup.
Je vous ferai passer à l'anglais, je risque de dire une énorme bêtise. Vous savez, on dit welcome ? Non, on ne dit pas welcome. On dit quoi ? Quand on dit bienvenue ?
On dit merci.
Vous êtes la bienvenue. Et enfin, donc, par ordre d'apparition, Emma Boss qui est avec nous, qui va se présenter dans sa fonction, bien entendu. Bonjour.
Bonjour, et donc moi je suis réalisatrice de documentaires sciences et animaliers et je viens d'un petit peu moins loin puisque je suis de Montpellier.
Bon voilà, bon, on a Montpellier, on a Arles et d'autres territoires ici ou là, mais c'est un véritable plaisir que de vous recevoir sur ce plateau. Il va y avoir des rendez-vous liés justement à votre travail en commun, mais on va parler justement de ce regard féminin et de ce travail de la promotion du rôle de la femme dans ce domaine qui est souvent sous-représenté. C'est une lapalisse, hein, c'est assez simple que de dire ça et c'est une malheureuse réalité. Il va y avoir deux rendez-vous, deux temps forts et même plus à ne pas rater puisqu'il y aura aussi un vernissage. Je vais donner déjà l'agenda, c'est demain samedi 16 mai à 10h30 la projection donc, du film du renard qui a sauvé son île. Donc vous êtes l'autrice, la réalisatrice. C'est ça ?
Oui, effectivement. J'ai réalisé ce film et je l'ai écrit et il est produit donc par Sylvie Randonnex qui est présente aussi et qui avait eu l'idée originale du projet.
Et on en parlera en détail dans quelques instants. Il y aura un vernissage, hein, c'est le vernissage de l'exposition Mistral, donc si je ne m'abuse, donc qui est signé de Rachel Cobb, c'est ça ? Je l'ai dans l'ordre ?
Oui, oui, c'est un reportage qui m'a fait 20 ans et c'est un reportage sur le vent. Qui menace les gens de la France.
Et alors là, je suis dubitatif. Elle voit dans mon regard, elle se dit, lui, il est en train de se dire comment on fait pour photographier le vent, mais on va y venir en détail. Ouais. Et forcément, il y a le regard de l'artiste que vous êtes. Et il y aura, après ce vernissage et la découverte de l'exposition, d'ailleurs, j'invite nos amis auditeurs à la découvrir à l'espace Marcel Pagnol, à la salle Marcel Pagnol. Il y aura un workshop, un échange donc, qui sera proposé à partir de 14h30, avec vous-même d'ailleurs, hein, dans cette salle, qui permettra justement de parler des femmes photographes et cinéastes au cœur de la nature. Qui a envie en préambule, je disais tout à l'heure, la représentation féminine, elle n'est pas à la hauteur de la richesse. Moi, ça me rappelle un petit peu des femmes qui ont été les pionnières du cinéma moderne, tel qu'on le connaît, et qui ont littéralement été effacées au profit des hommes producteurs, propriétaires de caméras, de technologies. On a oublié le rôle de ces femmes. C'est un petit peu la même chose dans cet univers du documentaire, la photographie et autres.
C'est tout à fait ça. On a célébré il y a quelques jours les 100 ans de David Attenborough, qui est devenu un personnage connu dans le monde entier, qui présente les films animaliers de la BBC depuis plus de 50 ans. Et le métier a été vraiment dominé depuis ses tout débuts en histoire naturelle par les hommes et par les hommes blancs, en fait. Et du coup, les femmes, nous, on fait un travail avec la Fondation, avec le programme Nature Through Her Eyes, de à la fois d'encourager des jeunes femmes, de les soutenir dans leur vision et soutenir les histoires qu'elles ont envie de raconter à propos de la nature, de les former sur la partie technique dans les caméras, parce que c'est un métier métier qui est très qui demande une vraie spécialisation en image.
Ah, vous faites aussi un accompagnement de sur la formation, on va dire, entre guillemets.
Tout à fait, tout à fait. Beaucoup avec les femmes qui viennent du monde majoritaire en Afrique, en Asie, parce que le problème auquel on est confronté avec ce genre de contenu de film, c'est que traditionnellement, les gens en France, en Angleterre, aux États-Unis partaient aller en Afrique, filmer les éléphants et rentrer chez eux, faisaient leurs films, montraient leurs films à leur public, en fait. Et on n'a jamais donné l'occasion et l'opportunité à des gens qui viennent du monde majoritaire, où on va, nous, pour la plupart du temps, pour faire nos films, de cette possibilité de raconter leurs propres histoires autour de la nature. Donc, on passe beaucoup de temps à former des jeunes femmes là-dessus, mais on travaille aussi à essayer de promouvoir ce regard féminin, que ça soit dans la photo avec le travail de Rachel et dans le cinéma avec le travail de Emma et Sylvie, pour montrer au public qu'est-ce que c'est ce regard-là, pourquoi c'est important qu'on le partage et que le public, le grand public, puisse voir cette approche qui est un peu autre dans les questions, dans les sujets, dans la manière de monter le film. C'est vraiment autre chose. Et le public aujourd'hui a vraiment besoin de voir ça, vu la crise avec laquelle on est, avec la nature. On a besoin de multiplier ces types de regards sur la nature et que le public voit autre chose qu'un regard masculin blanc, quoi.
Voilà, un regard singulier, d'après ce que vous nous dites, qui est nécessaire. On ne va pas mettre à la poubelle tous les hommes, hein, ils ne sont pas tous égaux et toutes les femmes ne sont pas toutes égales, bien entendu, c'est la même chose, la même problématique, mais c'est vrai qu'il y a une sous-représentation qui est manifeste. Avec votre travail justement de réalisatrice comme ça, vous avez eu des barrières d'évolution dans la constitution de vos projets, des équipes, voilà, dans la démarche qui est la vôtre, ça a été le cas ou pas ?
Alors, je dirais qu'au départ, tout s'est passé de façon assez naturellement et j'avais pas conscience qu'il y avait effectivement un plafond de verre, on va dire. Donc moi, j'ai travaillé il y a 20 ans, d'abord en commençant à traduire les commentaires de Jacqueline Farmer qui est ici, ensuite à co-réaliser des films et puis après à réaliser des films documentaires animaliers. Et je me disais, tiens, c'est bon, j'en fais un, deux, trois, quatre, ensuite produit par Sylvie et ça avait l'air de tout bien se passer. J'ai une sœur qui est très sensibilisée à ces questions de femmes et elle me disait, mais tu te rends pas compte que tu es un peu la schtroumpfette, c'est-à-dire la seule femme autour de toi, il n'y a pas d'autres réalisatrices. Et je suis regardée autour de moi, effectivement, il y avait Jacqueline, moi, et à l'époque, il y avait une autre collègue qui s'appelle Kibi Kennedy aussi, mais il n'y avait pas d'autres femmes. Ça a changé aujourd'hui, je tiens quand même à le souligner, il y a une école qui s'appelle IFCAM, spécialisée dans le documentaire animalier, dans laquelle il y a toute une nouvelle génération de jeunes femmes, et récemment, dans des grands festivals, il y a Rachel Guénon, Guylaine Bergeret, qui sont d'autres femmes. Donc voilà, on reste, à l'heure actuelle, dans le documentaire animalier, 8% de femmes contre dans le documentaire scientifique 23% et dans le documentaire en général 40%. Donc il y a toujours une minorité, mais on progresse. Donc ça, c'est le point très positif. Le plafond de verre que moi-même et toutes les autres femmes n'ont pas encore réussi à percer, c'est celui en France, en tout cas, du prime time animalier. Pour le moment, c'est un domaine réservé aux hommes, mais c'est le cas aussi dans les documentaires d'histoire. C'est notamment des films qui ont une plus grosse exposition, un plus gros budget. Donc c'est toujours difficile pour nous d'être jugés partis et de savoir quel est le paramètre qui fait que, voilà. Mais en tout cas, les chaînes aujourd'hui disent envoyez-nous des projets, donc on verra. Voilà.
Et alors, moi j'aime bien parce que vous dites, je m'en étais pas rendu compte, c'est ma sœur qui m'a dit, mais ça veut dire quoi que inscrit dans votre ADN fonctionnel, vous aviez pas cette velléité à dire je suis sous-représenté comme catégorie, voilà. C'était naturel, quoi. Il n'y avait pas de question.
Non, mais c'est-à-dire qu'au début, effectivement, on fait un film, on sait que de toute façon, faire du cinéma, on nous le dit depuis qu'on est jeune, c'est quand même un milieu très complexe. Donc en fait, on se dit la complexité, elle est là pour tout le monde. Et pourquoi faire des caricatures ? Et c'est après, en observant effectivement ce qui se joue autour de nous, qu'on commence à en prendre conscience. Et moi, c'est vrai que j'ai commencé à en prendre conscience il y a 10 ans, quand j'ai vu des collègues, ils se trouvent après. Encore une fois, on va pas faire
sur la ligne de départ ensemble. Sauf qu'eux ont progressé, j'imagine.
Voilà, c'est ça. Voilà, ouais, à faire des longs métrages.
Ça, c'est incroyable.
Mais après, le côté multifactoriel est compliqué à dire. Et encore une fois, donc moi, je fais partie de du collectif Nous Réalisatrices, il y a le collectif Les Femmes, les Mardis des Réalisatrices, il y a le collectif 50-50, il y a le collectif Femmes et Parité à la Garde, il y a énormément de collectifs, le travail bien sûr de Nature Through Her Eyes, qui essayent en tout cas simplement de visibiliser les choses, de dire voilà, les chiffres existent, soyons-en conscients, et après les paramètres sont différents, et après savoir qu'est-ce que ça fait que d'être une femme sur le cinéma, peut-être qu'on peut en parler, chacun a ses opinions, je vous dis qu'il n'y a pas de caricature, mais en tout cas je sais que moi j'ai une vision de regarder de ce que je souhaite mettre en avant dans les films, qui est partagée notamment par Sylvie, ma productrice, et voilà, qui est particulière. Est-ce que ça tient à mon genre ou à ma personnalité? J'en sais rien, mais en tout cas, ça fait des films singuliers.
Ouais, on est un petit peu dans la caricature avec nos propos aussi, mais on va faire avancer les choses, on l'espère, hein, en apportant notre petite pierre à l'édifice. Justement, la phase de production, vous avez cette envie, cette velléité de faciliter le regard des femmes, ou il n'y a pas d'exclusive, il peut se présenter à vous en termes de production des projets masculins, tout simplement?
Ah oui, bien sûr. Non, je suis pas, c'est pas marqué bureau de production pour femmes exclusivement. Non, du tout. Après, c'est vrai que comme tu dis, Emma, il y a plein de choses multifactorielles, mais c'est vrai que fondamentalement, les jeunes réalisateurs ou réalisatrices avec qui je pourrais travailler sont essentiellement des jeunes réalisatrices. Donc c'est vrai que moi, je prends plaisir à faire une sorte de passation maintenant, et c'est plus avec des jeunes femmes. Je ne saurais pas l'analyser pourquoi. Mais sinon, pour rebondir sur ce que disait Emma aussi sur le genre et l'animalier, c'est vrai qu'on a fait 5 animaliers ensemble, et que les films avec lesquels on a commencé, les animaux avec lesquels on a commencé sont en fait, comment l'analyser, je crois qu'on a pris, enfin on a un peu intuitivement analysé qu'il y avait un terrain qui n'était pas pris par les hommes, qui était l'animalier dit de proximité. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas intéressé aux mêmes animaux, qu'on n'est pas allé chercher la panthère des neiges, on est allé chercher les chats, on est allé chercher les cochons, on est allé chercher les chèvres. Et en fait, on s'est fait une petite spécialité avec ces animaux-là, qui sont, on n'avait pas du tout conscience que c'était des animaux de proximité, mais après, les vendeurs internationaux des films nous ont dit voilà, ça c'est un genre à part entière, c'est l'animalier de proximité. Voilà, donc on a pris en gros un terrain qui n'était pas investi par les hommes.
Mais alors, moi je trouve, avec ce que vous venez de me dire, qu'en fait c'est du fait de la responsabilité de la femme dans la société, c'est-à-dire avant d'aller chercher très loin, elle s'occupe de ce qu'il y a là à régler comme problème, de préoccupation, et pas se projeter ni dans d'autres pays ou dans l'univers. C'est d'abord réglons ce qui se passe autour de nous. Ça serait un petit peu ça ou pas?
Ça serait un petit peu ça, puis c'est aussi de porter une attention à ce qui nous entoure au plus près, et puis pas d'être dans la performance d'aller chercher quelque chose, et que c'est pas l'effort qu'on y met et l'espèce de morceau de bravoure d'aller réussir à filmer le bout de la queue d'un truc. Voilà, bon, mais sinon je pense qu'Emma peut en parler beaucoup mieux.
Oui, je suis assez d'accord avec Sylvie, parce que souvent on communique sur des films en disant oui, alors j'ai passé 3 mois dans le froid et sous une tente et à faire ceci, et il m'a fallu 25 000 ans, voilà. Et parfois effectivement c'est pas forcément la prouesse, mais juste le regard et aussi la volonté pour moi de donner autant d'énergie et autant de beauté et de charisme à des animaux sous-représentés, effectivement.
Mais qu'on ne voit plus.
Qu'on voit, mais sans les regarder dans leur comportement animalier. Parce qu'effectivement, bon, après, dans les festivals naturalistes, souvent, nos films n'étaient pas sélectionnés parce que c'était des animaux domestiques aussi. Et les festivals animaliers s'intéressaient aux animaux sauvages. Mais je trouvais que c'était intéressant de montrer que même les animaux domestiques ont des comportements qu'il est intéressant de décrypter et de voir qu'est-ce qu'ils ont comme part sauvage, qu'est-ce qu'ils ont comme part naturel. Et après, c'est vrai que quand on a fait des films sur des animaux sauvages comme le raton laveur ou comme le renard, c'est aussi finalement des espèces qui étaient en interaction avec les animaux. Je crois que tu voulais rebondir.
Oui, je voulais juste rebondir sur ce que vous disiez, Hakim. Le mot responsabilité, je pense que c'est pas notre devoir de faire ça autant que femme. On n'est pas responsable de ça. On doit pouvoir être libre de à la fois aller filmer la panthère de neige et faire un film prime time si on a envie, Et si on nous laisse la possibilité et l'opportunité et l'accès de le faire, mais aussi de filmer des vers de terre, qu'on puisse ouvrir pour les femmes tous ces champs de possibilités, qu'on a accès à tout qui est aujourd'hui, n'est pas le cas. Mais les femmes ont toute cette possibilité, toutes ces capacités de faire vraiment tout, quoi. Et c'est juste à la fois, et comme vous avez dit tout à l'heure, qu'on était un petit peu dans les caricatures, on ne va pas mettre tous les regards de masculin à la poubelle, je suis tout à fait d'accord. Et tout le travail qu'on a pu faire dans les questions de formation, on a eu beaucoup d'hommes qui nous ont aidés pour former les femmes qui se rendent vraiment compte de la problématique qu'il y a dans l'industrie aujourd'hui et qui sont là à nos côtés pour essayer de pousser, d'essayer de casser ce plafond de verre pour faire en sorte que on puisse avoir ce regard féminin à tous les niveaux, à tous les niveaux de la nature.
Voilà, vous avez raison, j'étais caricatural, je ne m'en étais pas rendu compte, mais que voulez-vous, on est ainsi fait, c'est inscrit dans mon ADN reptilien sûrement, il y aura quelque chose comme ça. Et pour ne pas vous laisser de côté, puisqu'on a une photographe, s'il vous plaît, donc, qui justement officie avec une exposition qui parle du Mistral, mais avant de parler de cela, est-ce que vous avez, vous aussi, eu ce plafond de verre, est-ce que le parcours d'une femme en matière photographique est compliqué, différent du regard des autres, hein, voilà.
C'est-à-dire que bon, au début, quand même, hein, je ne me suis pas rendu compte de ça. J'ai fait mon travail, j'avais des collègues et je n'ai pas réfléchi à si c'était des hommes ou des femmes, hein, même pas. On était humaine à la base. Au fond, on était humaine. Et donc, je n'ai pas beaucoup pensé à ça. Par exemple, comme je suis photo-reporteur, j'ai fait j'ai travaillé un peu en Sarajevo, en Bosnie pendant la guerre. Et même en ce moment-là, je n'ai pas pensé que j'étais la seule photo-reporter féminine. J'y pensais pas du tout. Hein. Il y avait d'autres, bien sûr, d'autres. Mais dans le moment où je travaillais, elles n'étaient pas là par hasard ou je sais pas. Ouais. Donc,
mais c'était quoi? C'est la vieille caricature.
Il y avait comment?
C'est de la vieille caricature de « Ah non, on ne va pas exposer une femme à la guerre, c'est violent. »
Non, ce n'est pas ça. C'est juste que, en général, les reporters, c'est-à-dire qui écrivent, étaient les dames. Mais les photo-reporters étaient plutôt les hommes. Mais, il y avait des photo-reporters féminines, mais dans le moment que j'étais là, on n'était pas ensemble. Bon, bref. J'ai pas pensé du tout à ça. Mais c'était après, un peu, que je me suis rendu compte que... Ah bon, c'était que moi.
Il y a quelque chose qui cloche.
Oui, mais non, mais... Donc, c'est-à-dire qu'en ce moment-là, je n'ai pas pensé que j'avais un regard différent. Ouais. Hein? Des fois, j'ai profité d'être... peut-être qu'on... On ne me prend pas sérieusement, hein? C'était un avantage, quoi.
Vous avez laissé parler, puis vous avez
fait. Ouais, elle peut rien faire. Laissez-la faire son truc, hein. Ça fait. elle peut rien faire. Bon, mais en même temps, des fois, cet même esprit, c'était un esprit de me protéger. Donc. On comprend bien ce que ça nous empêche, hein, et ça va pas, hein, franchement.
On va les mettre dans une boîte avec du coton et elles se blesseront
pas. Mais ça, c'était une autre époque. Ouais. Bon.
Vous avez senti les choses changer?
Je pense que c'est complètement différent, ouais, beaucoup changé. Il y a beaucoup de photo-reporteurs qui sont... Il y avait en ce moment, mais juste pas quand j'étais là. Mais bon, mais depuis un moment, j'ai photographié la guerre pour très peu de temps, enfin, en fait, et je fais autre chose, et pour chasser le vent, j'étais toute seule, hein. Yeah. Donc,
seul
j'avais
avec
pas
l'élément.
Une question de mon regard ou le regard de quelqu'un d'autre.
Ouais, hein? C'était vous et l'élément. Bah tiens, puisque vous en parlez, je vais vous poser la question parce que j'étais un petit peu dubitatif tout à l'heure. Ce Mistral, ouais. On le photographie par interaction avec son environnement, c'est ça? C'est-à-dire l'impact qu'il a sur nous, sur la végétation et autres?
Voilà, exact. Je voulais voir l'interaction, comment cette force naturelle a imposé son pouvoir depuis les débuts des hommes ici en Provence, hein, pour penser, réfléchir à quelque chose qu'on ne voit même pas, mais en même temps c'est vraiment fort, ouais. Fort et partout. En même temps.
Ouais, et ça a un impact.
Et quelque chose qui va. Qui ne suit pas les frontières, qui ne suit pas rien. Ça bouge partout et ça touche tout le monde.
Le Mistral est libre. Et vous avez vu comment on fait bien les choses avec votre exposition. On a dit, ouais. Ça serait bien qu'il y ait un petit peu de Mistral pendant la période. Hein, et puis ouais. C'est le cas. Hein, bon. Et ouais. Alors justement, ces photographies que vous nous exposez, c'est une partie de votre travail. J'imagine que vous avez un appétit photographique qui dépasse le cadre du vent, même si c'est une quête déjà assez importante. Il y a d'autres sujets qui intéressent votre travail de photographe, d'autres matières, entre guillemets.
C'est-à-dire
que vous avez fait le vent, mais est-ce qu'il y a eu d'autres sujets, je sais pas, des animaux, des personnes, des territoires dans votre travail, puisque vous avez quand même une carrière photographique qui ne date pas d'hier, entre guillemets.
Pour moi, c'était une histoire complètement différente, parce que comme photoreporteur qui travaille pour les journaux, on sait en avance le sujet. On connaît un peu le sujet. Hein. Par contre, pour le Mistral, j'avais des idées dans la tête, mais c'était, je le découvrais en le faisant, en le cherchant. Et alors, chaque photo, chaque image, c'était... J'ai fait, là, j'ai fait ça. Et puis, je cherchais encore pour les autres. C'était chaque image me donnait des idées pour faire les autres. Par exemple, je savais que j'ai parlé avec
dites-le en anglais, on a des gens qui vont traduire. Allez-y, let's go.
Shepherds, les bergers, par exemple. Bon, j'ai parlé avec beaucoup de monde et j'ai parlé avec des bergers pour savoir comment ça a un effet, les Mistral a un effet sur
les moutons,
bergers, enfin, les moutons, ouais. Et on m'explique les choses et puis, bon, j'ai pensé à autres animaux, autres choses, par exemple les nids d'araignées, hein, j'ai découvert ça. Par hasard, mais parce que j'avais une sensibilité après un moment pour le vent et pour tout que le vent se touche, mon sensibilité était de plus en plus fort. Vous voyez?
Hein, vous nous invitez à un voyage et une introspection. Moi, le vent, j'y faisais pas attention. Hein. Il fait partie de ma vie depuis ma naissance. Ouais. Et je me posais pas la question. Justement, on dit souvent, les gens qui sont pas de ce territoire, alors que c'est le vent, le Mistral ici, la Tramontane ailleurs, ouais. Souvent on dit c'est un vent qui rend fou. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh là là, le Mistral, c'est la seule chose qu'on ne supporte pas. Est-ce qu'il y a eu cet impact sur votre, sur votre psyché, sur votre physique?
Ouais,
est-ce que
ouais.
C'est à un moment, le Mistral, vous en avez eu ras-le-bol?
Ah, non, non, jamais. Hein. Le contraire, c'est que et j'ai trouvé de temps en temps, par exemple, le maire de notre petit village, ou le village où on est, c'est, j'ai parlé avec lui un jour, il a dit, j'aime bien le Mistral. Il a dit, moi aussi, j'adore depuis l'enfance. Et moi, les soirs, le matin tôt, quand j'entends le Mistral qui frappe les volets, je suis tout en cul, j'ai envie de me lever, hein. J'ai envie d'y être. J'ai fait la voile dans ma jeunesse, Donc ouais. C'est peut-être un peu de ça.
Ah, ça vous
qui m'attire,
a
hein.
La Madeleine de Proust. Ouais, c'est revenu, vous êtes dit ah, il y a un truc.
Il y a quelque chose que j'aime tout particulièrement dans l'exposition de Rachel, qui est vraiment, c'est une magnifique expo, c'est les soies. Le fait qu'elle a imprimé des images sur les soies qui flottent au milieu de l'exposition.
Ouais, au courant d'air, j'ai vu ça ce matin.
Ouais, oui, peut-être, Rachel, si, je trouve que c'est vraiment intéressant, cette idée que tu as eue de faire ça. C'est magnifique.
Oui, tu d'abord, c'était important que ça soit le soie, pour la soierie en Provence, pour cette tradition. Donc, polyester, non. Il faut que ça soit naturel. Et je voulais que les images bougent un peu, bien sûr, comme l'effet du vent.
Du vent, ouais.
Et je n'ai pas fini les images. C'est-à-dire, je n'ai pas les images pour qu'ils puissent bouger naturellement. Enfin,
donc elles sont imprimées sur la soie elle-même, c'est ça ?
Elles sont imprimées sur la soie, ouais.
Ouais. Ouais, directement. Par la technique, qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique pour justement imprimer ? C'est-à-dire la même technique que sur du papier classique ?
C'est-à-dire que ce n'est pas moi qui l'ai fait.
Oui, hein, mais... Bah...
Mais comment on fait ? On attache le soie au papier et on met le soie et papier sur l'imprimeur. Et après, on les sépare.
Bah, c'est bravo. Comme ça.
Elles sont un peu fragiles, mais bon, je les laisse
détruire. Ah, mais c'est dans l'idée du concept. Moi, je vois bien ça avec le vent. Ouais. Ça fragilise forcément tout ce qui l'entoure. Hein. Il y a de l'érosion, il y a des branches qui cassent. Et pourquoi pas des photos qui seraient un petit peu malmenées par celui-ci. Je n'oublie pas également, puisqu'on parle de l'exposition, il y a le vernissage demain à 11h30. Hein.
Oui, justement. Voilà.
Vous pourrez discuter avec l'artiste, venez, parce que moi je pense qu'elle va vous apprendre à redécouvrir ce qui fait partie de votre environnement, ce vent qui est bien présent sur notre territoire, ce sacré mistral pour certains. Et je découvre qu'il y a des gens qui adorent le vent. Moi, j'ai plutôt tendance à dire ouais, bof, ça risque éventuellement de gâcher ma journée. Mais non, mais je comprends ce que vous dites. Je trouve que des fois, il a un côté apaisant, ce vent, quand il souffle. Bah, quand c'est pas la tempête non plus, hein, mais c'est plutôt pas mal. Alors, il y a aussi ce renard hein, qui a sauvé son île. Alors, moi, j'aimerais savoir qui est la productrice, qui est la réalisatrice, est arrivée avec le projet. Comment ça s'est passé ? Qui en dit
Alors là, bah là, c'est vraiment la productrice qui est arrivée avec le projet.
C'est une collaboration, en fait.
Vous avez eu l'idée de...
Non, c'est pas que j'ai eu une idée. En fait, les idées de films sont un peu... Enfin, c'est surtout des histoires de rencontres. Et il se trouve que... souvent on se dit c'est les réalisateurs qui arrivent avec des projets. Oui, c'est vrai, la majeure partie du temps c'est ça, mais d'autres fois on a des idées ou on fait des rencontres, et là pour le coup c'était l'histoire d'une rencontre. En fait, c'est une histoire familiale, c'est que mon compagnon est américain et son neveu était directeur scientifique de l'île de Santa Cruz, qui est au large de Santa Barbara en Californie, et il est allé le visiter un jour, et quand il est revenu il m'a dit mais il y a des renards partout et ils ont une histoire incroyable, faut que vous parliez avec Jay, il y a peut-être une histoire. Jay, c'est le nom du neveu. Voilà, et donc on a fait un visio avec ce Jay, le directeur scientifique de l'île, et on a un peu gratté pour voir s'il y avait une histoire intéressante à raconter. Et de fait, voilà, peut-être tu peux nous dire, toi, de l'idée ou d'un contexte, qu'est-ce qui fait film ?
Parce que le sous-titre, c'est Le renard qui a sauvé son île, et ça vous a parlé tout de suite, quoi.
Alors, le titre, il est venu plus tard, en fait, et d'ailleurs, pour la petite histoire, c'est en pitchant le projet au directeur de la chaîne Arte, ou à l'époque le projet avec un autre titre de travail, et il m'a dit ah mais ton film en fait c'est Le renard qui a sauvé son île, c'est ça ton titre. Donc du coup on s'est dit ah bah oui, super, et donc on a choisi ce titre là d'ailleurs c'est assez rigolo parce que peut-être ça se produira demain, mais quand il y a des enfants, les enfants comprennent pas le titre du film, parce que bien sûr c'est un titre symbolique, c'est pas un titre littéral. Mais c'est vrai que quand Sylvie m'a parlé du projet, tout de suite je suis allée voir le look du renard. Donc c'est vrai que bon, moi j'ai été caricaturée entre, on va dire, avec la réalisatrice qui aime bien les animaux mignons, bon, ce qui est vrai, mais pas exclusivement, mais là c'est vrai. Et quand j'ai vu le look charismatique de ce renard, parce qu'en fait il est un petit peu plus renard, il est un peu plus petit, il est un tiers plus petit que les renards qu'on a ici, ou même que les renards américains, notamment parce qu'en fait il a diminué en taille par rapport au fait qu'il était sur cette île. Donc, le premier chose qui m'a vraiment attirée, c'était son charisme, sa bouille de renard. Et puis ensuite, quand on a discuté avec Jay, et ensuite quand je me suis renseignée un petit peu sur l'histoire de ce renard, j'ai vu qu'il y avait une possibilité de faire une histoire avec une double narration entre l'histoire du renard, mais aussi l'histoire de sa conservation, puisque c'est un renard qui a failli disparaître grâce à tout le mécanisme qui a été mis en place par une association. Il a réussi à être sauvé avec une gigantesque opération de conservation. Donc il y a un côté feel good, succès. Et aujourd'hui, quand on entend toutes les histoires, parce que c'est vrai qu'on est dans un monde où la biodiversité s'effondre, où c'est très compliqué, je trouve que c'est important aussi de dire que parfois, quand on prend les choses en main et qu'on a la capacité d'agir, on peut encore sauver des espèces de nos jours. Et donc, ça donne aussi la volonté à chacun de faire en sorte d'agir pour sauver une espèce. Et puis, c'est vraiment le renard qui est au cœur de l'écosystème, avec des interactions aussi bien avec des végétaux, avec d'autres insectes, même avec la biodiversité marine. Et donc, ça nous permettait aussi de raconter une histoire d'un lieu, de son écosystème, au travers d'un personnage charismatique. Et donc, c'est ce film vraiment que j'ai entrevu et qui m'a donné envie de collaborer avec Sylvie, avec toute l'équipe de Lille pour réaliser ce projet.
Et ce renard, est-ce que vous avez fait de l'anthropomorphisme? Je vais y arriver. Est-ce que vous lui avez donné une voix ou est-ce que vous avez dit non, c'est un renard et on va donner une narration autour de sa présence, de sa vie, de son évolution?
Alors effectivement, c'est un documentaire animalier classique, donc il y a une voix off de commentaires. Par rapport à l'anthropomorphisme, moi j'essaie pas de calquer les sentiments sur les renards, mais par contre je les accueille. C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup d'évolution maintenant sur les connaissances en biologie depuis 20 ans. On sait aujourd'hui que les animaux, qu'ils soient domestiques ou sauvages, c'est pas le renard, mais c'est chaque individu renard a une caractéristique particulière, un caractère particulier. Quand on observe les images, bien sûr on est des humains, on n'est pas de renards, donc on ne peut pas savoir exactement ce qu'ils pensent, mais on voit, il y en a certains qui sont intrépides, d'autres timides. Donc voilà, donc effectivement, on essaie de retranscrire de la façon la plus juste possible en se basant sur les recherches des biologistes sur place. Ensuite, on fait de la vulgarisation. Donc,
ouais. C'est une équipe qui se déploie pour ce projet-là. C'est sur une période, c'est sur plusieurs temps dans l'année, sur plusieurs années. Comment ça se passe?
Alors, entre le moment où on a l'idée et le moment où le film se termine, il se passe plusieurs années, mais le temps de tournage en lui-même, on est contraint par les budgets, qui sont notamment des budgets assez contraints parce que c'est des films d'une heure pour la journée et pas des films de prime time. Donc moi, j'ai en règle générale un mois de tournage pour les films sur lesquels je fais. Donc ça demande énormément de préparation, énormément de travail en amont avec les scientifiques locaux qui, eux, nous indiquent vraiment à l'avance, il faut que vous veniez à tel moment pour avoir la chance d'avoir les petits. Attention, cette année, il a beaucoup plu, donc la période de mise bas va être un peu décalée ou un peu avancée. Donc décalez-vous sur tel moment de tournage. Et il se trouve que sur cette île-là, on ne peut rester. Enfin, il n'y a pas de nourriture ni rien. Donc en fait, il est convenu avec les équipes locales qu'en fait, on vienne pour 10 jours. On amène nous-mêmes tous nos vivres pour 10 jours. Ensuite, on fait une pause, on revient sur le continent, on fait des courses et on revient. Donc en fait, pour le film, on a fait une première session de repérage avec Sylvie, la productrice, en mars, donc 2024, où on avait prévu de passer 3-4 jours sur l'île, et puis pour des raisons de vent, on a été limité à l'aller, limité au retour, donc on n'est resté que 24 heures. Mais en 24 heures, on a quand même validé que oui, là, il y avait les renards, qu'on pouvait les voir, qu'on pouvait les filmer de près, sans trop qu'ils aient peur. Donc c'est aussi nécessaire pour pouvoir avoir la capacité de faire un film en 2 fois 10 jours, parce que sinon on peut pas faire ce type de film là en pur animalier, parce que nous on voit pas du tout de scientifique dans le film, c'est uniquement les animaux, sur les renards et toutes les autres espèces, que ce soit les geais bleus, les pigargues, des souris qui sont dans son, les insectes qui sont dans son environnement. Voilà.
C'est une belle aventure que vous nous racontez là. Ouais, mais moi, je vois belle. Aussi la limite. Vous dites, oui, il faut trouver des financements et on a un mois pour le faire. C'est presque du luxe de faire du repérage avant. La productrice que vous êtes, là, elle tape à toutes les portes, les banquiers, les chaînes de télé, les diffuseurs. Comment ça se passe ?
Les banquiers, non. En fait, il faut savoir qu'on a un système de financement en France qui, à la fois, qui est quand même très privilégié. Il y a beaucoup d'autres pays qui nous envient, puisqu'on a un CNC, un Centre National du Cinéma, qui par des histoires de taxes collectées auprès des diffuseurs, redistribuées ensuite sous forme de guichets plus ou moins sélectifs. Enfin, voilà, on a quand même un système qui fonctionne, mais ce système fonctionne avec une clé de voûte. Là, le renard est la clé de voûte de l'écosystème de l'île de Santa Cruz, mais nous, notre clé de voûte, c'est le diffuseur. Donc là, on ne fait rien sans diffuseur. C'est la première marche. Et après, on peut aller frapper à d'autres portes, d'autres guichets, mais il faut qu'on ait un diffuseur. C'est lui qui déclenche la faisabilité du film et la possibilité d'avoir des financements complémentaires ensuite.
Et le diffuseur, ça a été Arte, comme
mentionné ? Ça a été Arte, ouais. Oui, ça a été Arte.
C'est quand même une chaîne quali, hein, pour quand on veut avoir temps d'expression, c'est sur Arte qu'on trouve ces possibilités.
C'est sûr, quoi. On les aime beaucoup dans notre écosystème, et c'est vrai qu'on peut, dans une grande diversité de sujets aussi, et là, pour le coup, c'est vrai qu'on ne s'attend pas forcément à ce que Arte fasse de l'animalier, mais si, ils en font. Et ils en font en plus avec souvent une envie de dépasser juste le comportement, mais ils aiment bien les choses un peu transverses. Donc là, le côté histoire d'une aventure de sauvegarde, ça les a beaucoup plu. Ça leur a beaucoup plu.
Ouais. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que ça devienne d'un stade de documentaire, un prime, comme on dit ? Qu'est-ce qui ferait la différence pour qu'il n'y ait pas cette fameuse barrière ?
C'est compliqué vraiment de dire. Enfin, c'est les enjeux. Déjà, c'est des enjeux des ambitions de forme et des ambitions de narration. Et c'est vrai que quand on se dit est-ce qu'il y a un film, on pense narration. C'est-à-dire, est-ce qu'on va pouvoir tenir ? Enfin, qu'est-ce qui va permettre de pouvoir tenir 52 minutes en l'occurrence ? Et donc, quand on a un prime, l'enjeu est encore plus fort parce que tenir 1h30, il faut une sacrée histoire derrière. Donc c'est vrai qu'on ne s'est même jamais posé la question avec le renard, est-ce que c'est un prime ? Parce qu'il y avait... En fait, pour faire du prime animalier, il faut vraiment être sûr de quelque chose de très événementiel, quelque chose d'assez exceptionnel, à la fois dans l'histoire et dans les moyens mis en œuvre.
Ouais, ou là, j'imagine qu'il aurait fallu croiser des histoires de conservation, faire une histoire aux États-Unis qui aurait un écho avec une histoire de conservation, j'imagine, en Europe et principalement en France pour avoir un ancrage et une histoire de conservation ailleurs. Il y a très très peu de films de prime qui sont faits en France en animalier et de moins en moins, mais souvent c'est un film, un angle thématique, par exemple les migrations, où il y a eu toute une série sur les plus beaux animaux de France ou d'autres séries sur les requins. Souvent c'est une thématique qu'on décline dans plusieurs lieux, ou alors un lieu et beaucoup d'animaux. Et la différence en termes formels, c'est-à-dire qu'effectivement on a des moyens beaucoup plus importants et donc on peut rester beaucoup plus longtemps ou dans un lieu, ou alors avoir 10 équipes qui vont tourner simultanément dans 10 endroits différents, c'est ça.
Oui, et avec un côté spectaculaire aussi. Ouais.
Mais on est en ce moment dans une véritable crise avec les films animaliers à la télévision, pas qu'en France. En France, c'est très problématique. On a perdu... une partie de Arte, on a très peu de cases pour les films. Nous, des gens du métier, on ne sait pas trop pourquoi, parce qu'on sait que les films font de l'audience. On a beaucoup de spectateurs qui regardent ces films-là. Mais les chaînes ont coupé beaucoup des cases de programmation en France, mais aussi à l'international, aussi aux États-Unis. Avec les problèmes des financements des chaînes publiques en Angleterre, dans l'Europe, c'est très très compliqué parce que les films animaliers sont chers, parce que on doit envoyer des équipes, on passe beaucoup de temps dans les lieux qui sont souvent éloignés avec une logistique compliquée. Donc ça coûte de l'argent, et pour que les films animaliers soient réussites, le secret, c'est vraiment de passer du temps sur le terrain, du temps à se mettre dans les affûts, à attendre que des animaux soient au rendez-vous. Des fois ils le sont, des fois ils le sont pas, et c'est comme ça. Mais pour ça il nous faut le temps, et pour ça il nous faut des budgets pour qu'on puisse passer le temps. Et
ce qu'on voit en ce moment, c'est qu'on, à la fois, on est dans une crise avec, avec les cases de programmation, mais également avec la distribution des films, où il y a beaucoup de distributeurs qui posent le bilan, les grands sociétés, et en France et à l'étranger, et du coup il y a une vraie, on est dans une vraie situation que je pense on n'a jamais connue en fait, ouais. Depuis qu'on est dans le métier.
C'est vrai qu'on est dans un marasme, pas encore, mais on est dans une période de fragilité qui peut-être annonce un marasme, ouais. Oui, c'est vrai.
Que moi je vois une évolution des pratiques dans le cinéma classique, hein, ou même télévisuel, où là ce sont des plateformes qui prennent le relais et qui allouent des fois des budgets mais assez extraordinaires sur certaines opérations. Est-ce que les plateformes ne sont pas partie prenante de documentaires animaliers dans les sujets qui vous intéressent, ou ça existe, ça se fait?
Ça existe un petit peu, mais un tout petit peu. Ils signent 2-3 films animaliers par an sur le monde entier. Ouais. Hein, entier.
Donc, et du coup, ils vont chercher ceux qui sont déjà les plus rassurants. Donc, en gros, ils vont prendre la personne qui a déjà fait 10 films pour la BBC, ou la personne... En gros, c'est des regards assez habituels, où après, de temps en temps, il y a un petit coup qui a commencé comme un film d'auteur sur l'histoire de la pieuvre, donc qui peut arriver, mais c'est vraiment à la marge. C'est-à-dire que c'est vraiment presque des films d'auteurs qui sont arrivés ensuite sur la plateforme, mais ceux qu'ils produisent, eux, c'est plutôt ceux qui faisaient déjà ailleurs qui sont récupérés. Ouais. Voilà.
Vous vouliez intervenir, non?
Non, juste une question, si ça... Cette pression, si des temps, il y a des shortcuts, est-ce que ça arrive, hein? With so much pressure, does it mean that sometimes people are trying to do shortcuts to get the most dramatic moments?
Yes, ouais, tout à fait, Rachel.
Ah, excusez-moi, shortcuts, oui. Si je veux savoir. Ouais. Moi,
Rachel se demandait si, avec toute la pression qu'il y a dans le métier, si des gens font des raccourcis pour arriver à des résultats, et c'est vrai. On a eu beaucoup d'histoires qui sont sorties dans la presse récemment, avec les gens qui filment dans les eaux, les gens qui utilisent les animaux dressés, qui les met en situation qui sont éthiquement pas acceptable, les situations de chasse.
C'est pas des polémiques récentes, parce que moi j'avais des références avec quelqu'un qui avait un bonnet rouge, je vais pas dire plus, où il y a eu des polémiques. Hein, a dit oui, il y a eu beaucoup de choses quand même qui étaient mises en scène et qui est pas très reluisant, quoi. Donc
tout à fait.
Et cette pression pourrait engendrer ce type de situation.
Oui, parce qu'il y a ça, on le voit beaucoup plus de cas des choses comme ça qui sont éthiquement très borderline dans la pratique du métier, mais c'est à la racine de ça, sont des problèmes économiques où on ne peut pas envoyer des équipes sur les terrains pour les 2 mois qu'il faut pour avoir une vraie scène de chasse d'un léopard qui va prendre une gazelle ou je ne sais pas quoi.
Justement, parce que c'est une ligne directe entre le temps et la qualité.
Ouais. C'est la nature n'est pas sur commande, hein, jusqu'à preuve du contraire. Vous qui essayez d'accompagner, hein, ce regard féminin en formant, notamment, vous l'avez dit, sur la part majoritaire qui est l'Afrique, bien sûr, et cette envie de partager, de découvrir et d'avoir une représentativité, bien sûr, au sein de cette production. Est-ce que vous parlez de cette complexité, justement, de ce mur qui arrive en termes de... Il ne va pas y avoir des budgets pour tout le monde, j'imagine, et de dire fatalement, la part la plus congrue, la plus petite, ça sera pour les femmes, quoi. Est-ce que vous leur dites, il va falloir se battre, il va falloir peut-être déployer encore plus d'efforts que ces messieurs?
Ouais, c'est une situation qui est compliquée, surtout en ce moment, parce que avec ce problème qu'on a mondialement sur le métier, les premières personnes qui vont souffrir de ça le plus, c'est des jeunes femmes africaines, asiatiques qu'on vient de former, et c'est elles qui vont tomber de l'échelle en premier. Et c'est très très compliqué en fait tout ça en ce moment. Mais ce qu'on essaye de leur dire, c'est que ce qui est vraiment très intéressant avec leur approche, c'est qu'elles nous amènent des histoires qu'on n'a jamais vues, on n'a jamais entendues, on n'a jamais vues en fait, parce qu'on leur a jamais donné la parole. Et ce qui est intéressant, c'est de voir ce qu'elles nous proposent comme histoire, cette manière qu'elles ont de regarder la nature qui est complètement différente de la nôtre, à se placer vraiment au milieu de la nature et pas comme spectateur éloigné de la nature. Et donc, toutes ces histoires qu'elles proposent sont complètement novatrices, en fait. Et ça, donc, on essaie vraiment de les encourager, d'avoir la confiance, de rester dans leur culture et leur tradition et proposer leur manière de storytelling comme elles le voient, elles. Et de ne pas essayer de faire des copies de ce qu'on a pu faire nous ou ce qu'a pu faire National Geographic.
Oui, d'avoir leur singularité.
Leur manière de visuellement et dans la narration de faire des vraies propositions novatrices. Et ça, c'est vraiment leur force. Et moi, je suis convaincue que c'est comme ça qu'elles vont réussir à vraiment...
À émerger.
Émerger, à imposer et avoir des financements pour pouvoir continuer pour faire carrière.
Ouais. Pour la production, je ne veux pas noircir le tableau. Il y a quand même des choses qui arrivent pour vous. Il y a des gens qui, vous avez dit, des rencontres avec Arte, mais peut-être d'autres partenaires qui y croient et qui se disent il faut y aller.
Oui, bien sûr. Enfin, en gros, on est dans une période où on continue tous d'y croire. Voilà. Et le fait de pouvoir continuer à faire des films auxquels on croit et avec des partenaires de choix comme Arte ou France Télévisions fait qu'on a envie de résister. Mais on sent bien que c'est attaqué de toutes parts quand même. Donc jusqu'à quand ça va durer, on ne sait pas. C'est vrai qu'on est dans une situation où on serre un peu les dents tous en se disant « bon, allez, c'est pas possible que ça n'existe plus, quoi ».
Ouais, et puis autour de moi, ça fait déjà un an que tous les collègues réalisateurs, réalisatrices, sont tous dans une réflexion de dire bon, avant, on proposait un ou deux films et il y en avait un qui était sélectionné. Maintenant, on doit écrire 3, 4, 5 films et si on a... Après avoir écrit 5 films, un qui est sélectionné, c'est bien. Et si c'est 3 et 1 sélectionné, c'est très bien. Mais voilà. Et pour certains, des projets qui, ce qu'on appelle, entrent en développement, c'est-à-dire que la chaîne s'engage, France Télévisions ou Arte, à développer le film. Et puis au bout d'un an, dit non, finalement, on va plus le faire. Ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Donc chacun essaie de trouver une diversification. Donc moi, il se trouve que je fais aussi des films sur l'archéologie. D'ailleurs, j'ai un film qui a été diffusé hier soir sur Totavel, une grotte dans les Pyrénées, et j'en propose un autre sur d'autres films d'archéologie. J'ai des collègues qui développent aussi des films pour des plateformes YouTube, d'autres qui réfléchissent à travailler pour d'autres modes qui ne sont pas la télévision. Donc voilà, chacun essaie de se diversifier parce que ça reste compliqué.
Dans l'événementiel, il y a des lieux qui réclament des sujets de qualité scientifique, on peut le dire. Je pense, que je ne dise pas de bêtises, du côté de Poitiers, j'ai oublié le nom, zut, pourtant j'y étais. Hein ? Le Futuroscope, bien entendu, qui a des sujets très intéressants. Peut-être pas forcément au regard féminin, mais en tout cas, des sujets très intéressants. Il y a peut-être une voie, là aussi, à développer sur l'événementiel, l'entertainment, comme on dit.
Voilà, sans doute, c'est à chacun, effectivement. Après, chaque nouvelle niche demande beaucoup d'efforts, des nouveaux contacts, une nouvelle forme, voilà. Donc, à chacun de voir où il veut se diversifier. Mais effectivement, tous les auteurs, autrices, réalisatrices, auteurs, réalisateurs autour de moi, sont conscients que les choses sont en train de se mouvoir, notamment parce qu'aussi il y a moins de monde devant la télé. Ça, c'est de toute façon une problématique plus globale.
Les supports changent.
C'est ça, mais quand on voit toutes les personnes qui sont au Festival de la Camargue pendant ces 3-4 jours, on sait que le public est au rendez-vous pour les sujets sur la nature. On sait que les gens aiment ça, les jeunes aiment ça. Ça a vraiment du succès. Donc, on reste confiant, comme disait Sylvie.
On est même surpris des fois des spectateurs qui adorent Moi, j'ai des potes, je ne savais pas du tout, qui seraient capables de me rappeler le cycle de vie de la fourmi parce qu'ils sont tombés sur un documentaire et qu'ils ont trouvé ça génial. Il y a vraiment un appétit. Je connais d'autres personnes qui ont cette routine, on va dire, hebdomadaire où de temps en temps, ils se font un petit documentaire animalier sur la vie du guépard, que sais-je encore. Et c'est plutôt rigolo. J'ai envie de vous demander, après le Mistral, est-ce que vous allez changer de vent ou est-ce que vous allez travailler sur d'autres projets? Parce qu'il y a la Tramontagne, il y a les Zéphyrs, que sais-je encore. Vous avez des idées? Il y a des choses sur lesquelles vous travaillez en parallèle?
Finalement, peut-être j'en ai assez du vent. Non, mais j'ai changé un peu la direction. Je travaille dans mon état natal, Texas. Et j'ai fait un projet sur le pétrole. Donc, pas du tout la même chose. Mais là, en même temps, le moyen dont je travaille, ça n'a pas trop changé. C'est-à-dire que j'approche le sujet de toutes les directions pour avoir l'histoire au centre.
Ouais, ça ne sera pas un ethno-reportage, ça ne sera pas basé sur l'activité humaine, et peut-être, mais pas
c'est,
que.
C'est reportage un peu, mais c'est plutôt... C'est l'avantage d'un sujet long, d'un projet, d'un livre. Hein? C'est l'avantage qu'on n'a pas avec le journalisme pur pour être dans une revue, pour être dans un...
Oui, ouais. Pas dans une rédaction,
comme
coco.
Ça, oui, ça c'est court. Mais si on travaille sur un sujet peu à peu, après des années et des années... Peut-être pas 20 années cette fois-ci, mais bon. c'est comme ça que je peux la...
Ouais, vous avez déjà commencé à collecter, oui, vous avez déjà travaillé. Ouais.
Ça avance peu à peu, mais je pense que...
Il y a eu quelque chose qui a déclenché cette idée ? Il y a eu quelque chose ? Est-ce que c'est Drill Baby Drill ou rien à voir ? Je plaisante.
Je réagis un peu à ça, c'est
non,
vrai.
Je plaisante,
non,
mais...
Non, ça va. C'est que je voulais un peu découvrir et exprimer aux gens un peu cette contradiction de mon état qui est très conservatif dans un sens, mais pas du tout dans un autre. Il y a une dichotomie complète.
Ouais, ouais.
Donc c'est compliqué comme état et c'est peut-être pas bien reçu de l'étranger.
Ouais. Non, c'est pas, oui,
les clichés sont tellement forts, mais est basé, il y a une vérité sur les clichés, mais je cherche vraiment de découvrir,
d'agrandir un petit peu l'horizon. Ouais.
Ouais. Et à mon avis, le pétrole, c'est le moyen. Comme le vent est le moyen pour Provence, c'est quelque chose qui touche tout. Mais différent, bien sûr, au Texas.
Vous savez qu'il y a jusqu'à pas très longtemps, je voyais le Texas comme un immense désert. Je voyais des rigs, j'imaginais, et j'ai découvert que non, le Texas, c'est la dimension d'un pays, et qu'il y a des zones qui sont plus tempérées, plus vertes, des zones bien sûr désertiques un petit peu, mais voilà, il y a une variété, et puis une variété de population. Et vous êtes du même état que Beyoncé quand même, hein, elle l'a rappelé avec une chanson.
Ah
hein.
Oui, oui.
Hein, vous avez vu un petit peu ce petit pied de nez qu'elle a fait. Elle a dit, oui, mais c'est mon pays.
Dommage
aussi,
qu'elle
ne pouvait
pas venir. Hein.
Bah oui, bon. Mais je suis très content de votre venue. J'ai pas perdu au change. Merci à vous. On va préciser donc qu'il y a votre exposition à découvrir sur le Mistral du côté de la salle Marcel Pagnol, qu'il y a la projection de votre film, donc Le Renard qui a sauvé son île. Donc à ne pas rater, ça sera demain à 10h30, donc à la salle Marcel Pagnol.
Et une petite précision, pardon, c'est vraiment un film pour tout public et à voir en famille. Et d'ailleurs, on a eu un prix jury en herbe, donc décerné par des collégiens au dernier festival Paris Science à Paris. C'est vraiment un film tout public et dont on peut discuter après en famille.
Demain 10h30, il a d'autres étapes là dans l'agenda. Il y a des endroits où vous allez aller, festivals, rencontres.
Il a fait toute une grosse tournée. Donc là, c'est la dernière de la saison. Donc effectivement, il a été primé à 3 reprises, 2 fois par des jurys jeunes et une fois par d'autres jurys. Il a une dizaine de projections pour le moment. Et là, pour le moment, il y en a pas d'autres de prévues. Je pense qu'il y en aura d'autres sans doute
à
l'automne.
Une diffusion télévisuelle.
Oui, la diffusion était sur Arte en septembre dernier, je crois.
Est-ce que c'est dans
déjà
le replay, par hasard, sur Arte, qu'il y a un replay qui est très intéressant et très riche,
oui,
vous le savez,
oui,
ou pas ?
Oui, c'était en replay jusqu'au décembre dernier, mais il est plus accessible en ce moment.
Mais il
donc
reviendra.
Venez à Port-Saint-Louis.
Il reviendra. Voilà. Oui, voilà, il faut aller à Port-Saint-Louis.
Pour découvrir votre catalogue, un petit peu, tout ce qui se fait, tout ce que vous accompagnez, il y a une plateforme qui existe, un site
non, j'ai pas
qui
de
donne
plateforme.
Des références ou pas, non ?
Non, les films sont un peu... c'est un peu compliqué d'expliquer la manière dont ça fonctionne, mais les films ne peuvent pas être accessible en permanence.
Non, donc, ne serait-ce que d'avoir des références, c'est tout.
Voilà, on peut aller sur le site de Nord-Ouest, voilà.
Bon, c'est dit. Si on veut savoir un petit peu plus de la vie de votre... Ah oui, alors...
De la Fondation.
La Fondation, vous êtes sur Arles, il y a un bureau,
il y a... On est à l'ancien théâtre de la Calade, en fait, qu'on a pris...
Sur les bords du Rhône.
Absolument, comme nos bureaux.
C'est un grenier à sel.
Oui, absolument, le grenier à sel, tout à fait, vous connaissez bien.
Alors, on a travaillé pendant des années avec les occupants précédents qui étaient dans la promotion artistique et théâtrale. Voilà. Oui, donc, c'est un lieu qui est magnifique.
Et c'est vraiment magnifique et c'est là où on montre beaucoup d'expositions de photos. On serait présente aux rencontres et c'est là aussi qu'on fait les formations des gens qui viennent pour faire des formations en documentaire, mais aussi en photojournalisme.
Comment vous avez appelé votre galerie, du coup?
Donc, moi, je gère le programme qui s'appelle Nature Theorize et on peut nous retrouver sur le web, soit par la Seven Foundation, soit Nature Theorize.
D'accord. Vous faites partie des différents circuits du off photographie, puisque vous proposez des expositions.
On est dans les rencontres, donc pas dans le off, mais dans le in.
S'il
dans
vous
le
plaît,
on.
Quand même.
On est dans le in.
On va arrêter de plaisanter, là, quand même. C'était pendant un moment, ça s'appelait la Galerie L'Hirondelle, si je ne me trompe pas. Hein,
Je passe
un petit bonjour à Colette si elle nous écoute. Je rappelle également que vous, au-delà du vernissage, donc de l'exposition photo, il y aura, donc c'est à 11h30, et l'après-midi, il y aura un workshop 14h30, les femmes photographes et cinéastes au cœur de la nature. Et moi, j'invite nos amis auditeurs, visiteurs à venir vous retrouver, à découvrir ces belles images, ces belles photographies sur cette salle Marcel Pagnol et à venir échanger avec vous. Voilà. Mais en tout cas, pour moi, ça a été un bonheur et content d'être en minorité sur ce plateau. Ça fait toujours du bien. Ça fait pas mal. Hein. Puis on se rend compte qu'on dit aussi des choses qui sont inscrites dans nos pratiques, dans nos réflexions. Et comme disait l'autre, le paradis est pavé de... Non, l'intention... Enfin, vous m'avez compris. On va faire des bonnes choses et on dit des bêtises. Voilà. À nos micros, je vais faire l'appel, s'il vous plaît, quand même. Remercier Jacqueline Farmer dans le désordre, Emma Boss, Sylvie Randonnex et Rachel Cobb, bien d'avoir alimenté de leurs propos éclairés ce plateau radiophonique. Merci à vous.
Merci beaucoup.
Merci.